Bonjour à toutes, bonjour à tous. Suite à un problème d'enregistrement, nous ne pouvons pas vous diffuser le début de l'émission. On reprend tout de même à la chronique de Florian et Pulsaria qui vont nous introduire au sujet de cette émission, l'écologie et le numérique.
Mise à jour en cours d'installation.
Bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va assez peu se marrer dans cette chronique puisqu'on va faire le point sur l'impact écologique du numérique.
Vous ne donnez pas très envie de vous écouter avec une telle introduction.
Je sais bien, Pulsaria, pourtant le sujet est très important et je pense qu'il est toujours bon de souligner l'impact que peuvent avoir sur l'environnement nos pratiques et nos habitudes de consommation en ligne.
Très bien, alors faites-nous peur, humains.
Bon, alors pour commencer, quelques chiffres pas très rassurants pour se mettre en condition. En 2015, Internet était considéré comme un sixième continent dans l'émission de gaz à effet de serre, avec des émissions représentant deux fois celle de la France cette année-là. Aussi, en 2018, on estimait qu'Internet représentait 10% de la consommation d'électricité mondiale. Et forcément, nous contribuons tous à ce chiffre. Cela passe avant tout par l'activité des serveurs, qui sont grossièrement des ordinateurs destinés au stockage et au partage des informations que l'on retrouve sur le web. C'est dans des serveurs que sont stockés les sites internet, les vidéos que l'on regarde en streaming, mais aussi nos mails et les données personnelles que l'on récolte sur nous chaque jour. Et ces engins, qui ne sont finalement que du matériel informatique, nécessitent une alimentation électrique et rejettent des gaz à effet de serre du fait de leur activité. Ainsi, si on fait un raccourci très très rapide, le moindre de nos faits et gestes en ligne est polluant. Car oui, même si on pourrait croire que les liseuses numériques par exemple sont plus écologiques que les livres sur papier, bien on se rend finalement compte que l'impact écologique des serveurs qui stockent les bouquins dématérialisés sont autant, voire plus polluants que l'édition papier. De quoi nous déstabiliser un peu dans nos croyances en le progrès.
Vous êtes bien parti pour détruire votre planète vue sous cet angle, humain.
Oui, bon, je sais pas si on en est encore là, mais dans le doute, on peut commencer à adapter nos pratiques, car il y a des solutions pour réduire notre impact individuel sur l'environnement. Souvent, on entend parler des mails. Chaque mail stocké dans un serveur est responsable d'une micro-dépense énergétique. En supprimant donc régulièrement les mails inutiles, on réduit un petit peu son impact sur l'environnement. Mais ce n'est pas le seul exemple. Comme je disais, les sites internet sont appelés depuis des serveurs, donc pour chaque site visité, une dépense énergétique est associée. Pour limiter cela, on peut donc favoriser les raccourcis ou les favoris dans les navigateurs internet, de façon à réduire le nombre de pages visitées pour aller d'un point A à un point B. Autrement dit, plutôt que de passer par Facebook ou Google pour retrouver nos podcasts, vous pouvez mettre en favori dès maintenant le site radio-pulsar.org ou le site qui héberge nos anciennes émissions spam.lepodcast.fr. Voici donc quelques exemples de gestes du quotidien qui réduisent notre impact. Cela dit, le combat ne doit pas se faire uniquement au niveau individuel et de nombreux projets voient le jour afin de nous offrir des pratiques alternatives et à l'impact écologique réduit.
Ah oui, et quelles sont donc ces alternatives ?
La chose à laquelle on peut penser en premier, ce sont forcément les moteurs de recherche réalisant des actions pour préserver l'environnement. Par exemple, le moteur de recherche Ecosia propose de planter un arbre à partir de l'argent récolté sur 45 recherches sur leur site. Cela permet de neutraliser leur émission de CO2, mais aussi de recréer de l'emploi dans certaines zones où la déforestation avait réduit les possibilités d'exploitation des terres. De même, le moteur de recherche Lilo vous propose de choisir les causes auxquelles renverser l'argent produit par vos recherches, causes tant environnementales que sociales. Un bon réflexe à avoir pour continuer de surfer sur Internet et faire du bien à sa planète. D'autres alternatives existent, notamment EcoMail, une boîte mail payante qui reverse votre abonnement à des associations de défense de l'environnement. Et puis on peut aussi penser la conception d'un site web autrement, en choisissant un hébergement local, proche des cibles du site, afin de limiter les dépenses énergétiques pour appeler le site web. Des solutions existent donc pour renverser ou du moins limiter l'impact écologique d'Internet. Cela dit, il n'y a pas que la partie en ligne qui coûte cher à notre planète. En effet, toute la partie matérielle, le hardware comme on dit, a aussi un impact sur l'environnement.
Oh là là, mais si vous devez même faire attention au matériel, cela devient vraiment compliqué.
Oui, je sais, mais le jeu en vaut la chandelle. Dans la mesure du possible, il est conseillé de ne changer vos équipements que lorsque vous en avez vraiment besoin et pas à la sortie de la moindre nouvelle fonctionnalité. Car en effet, téléphone, ordinateur et tablette renferment une petite quantité de matériaux très rares qui sont difficiles à extraire, on pense notamment à l'or, qui sont à la fois problématiques pour l'environnement et pour les travailleurs qui récupèrent ces minerais dans des conditions déplorables. Alors là encore, on peut imaginer des solutions alternatives, je pense par exemple au Fairphone, ce téléphone qui se veut équitable, promet une durée de vie d'au moins 5 ans et propose d'être facilement réparable par monsieur et madame tout le monde, de sorte à ne pas devoir jeter le téléphone au moindre défaut. Au-delà de cet exemple très extrême, il faut l'avouer, on peut aussi commencer par se laisser tenter par un téléphone reconditionné. Ces téléphones, recyclés, sont remis à neuf pour leur offrir une seconde vie et de quoi changer de téléphone sans pour autant forcer la production de nouvelles ressources rares.
Eh bien, j'ai tout noté, j'espère que les auditeurs ont fait de même.
Oula, Pulsaria, tout doux quand même. Personne n'est parfait et notre mode de vie actuel ne nous permet de toute façon pas d'être irréprochable sur ces questions. L'objectif pour tout un chacun, c'est donc de faire du mieux en fonction de ses obligations, de sorte à réduire autant qu'il le peut son impact environnemental. Donc pas de culpabilisation. Si déjà vous adoptez l'un des conseils cités dans cette chronique, ce sera une avancée pour notre chère planète. Dans tous les cas, je ne peux que vous inviter à écouter mes chers collègues débattre de ce sujet dans la suite de Spam.
Et merci à Florian et Pulsaria pour nous avoir pour avoir illuminé le sujet. J'aimerais qu'on revienne sur ces pistes de solutions. Denis ?
Non, moi, j'aimerais juste faire un petit disclaimer. Ne vous étonnez pas si vous entendez quelques éléments qui sont repris aussi dans ma chronique sur ce que vient de faire Florian. Mais c'est normal.
C'est tout à fait normal. On va revenir sur certains des éléments. On va les développer. Du coup, Florian nous parle ici de choses comme Ecosia, comme Lilo. Est-ce que pour vous, c'est des solutions, c'est de solutions viables ? Est-ce que quelque part dans Ecosia, on peut se poser la question du greenwashing ou ce genre de choses ?
Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à parler de greenwashing, mais c'est vrai que... Alors, Ecosia, je ne me souviens plus du tout du ratio, mais c'est un arbre toutes les N recherches, N étant assez absurde au demeurant pour un service de moteur de recherche qui n'est pas exceptionnel non plus. Enfin, c'est toujours dommage que voilà, ce ne soit pas... directement Google en fait, ou des entreprises de ce type là qui entretiennent directement des partenariats.
Si je parle de ça, c'est parce que il faut savoir que Ecosia fonctionne sur Bing, donc le moteur de Microsoft. Ouais. Voilà, Denis, tu voulais réagir ?
J'allais te rejoindre en disant oui, effectivement, il faudrait que ce soit ces grands-là, plutôt que de créer de nouvelles initiatives, que ces grands-là s'investissent dans des initiatives qui leur soient propres, alors qui peut-être pour le coup prendra une allure de greenwashing, parce qu'on sait souvent que leurs intentions sont tout autres et liées à la seule chose de verte à laquelle ils sont liés, c'est le billet.
Oh là là, ça dénonce.
Ouais, il me semble juste que le N que tu citais, Lucas, c'était 45, c'est-à-dire à peu près toutes les 45 recherches.
Donc 45, c'est plutôt pas mal en vrai. Du coup.
On continue de vous parler de l'écologie et du numérique dans Spam. Après un classique, on va s'écouter Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk tout de suite sur Radio Pulsar.
Makes us Accès, mais demain, Internet intégrera votre télé.
C'était le morceau Harder, Better, Faster, Stronger, issu de l'album Discovery des Daft Punk. Vous êtes toujours sur Spam et on vous parle écologie et numérique. Pour mieux comprendre l'impact du numérique sur l'environnement, je vous propose de prendre l'exemple d'un nouvel internaute fictif. Ça faisait longtemps. Steve arrive au travail à 8h30 et comme le veut sa routine de boulot, il commence par éplucher ses mails. Après avoir passé 10 bonnes minutes à trouver les deux messages importants perdus dans les 120 qu'il avait reçus, il décide de répondre à son collaborateur qui lui propose une après-midi coworking mardi prochain.
L'après-midi coworking.
Oh non.
Le retour.
10 grammes de CO2, c'est ce que lui a coûté l'envoi de sa réponse. Pour absorber ce rejet dans l'atmosphère, il faudrait monopoliser l'action d'un arbre toute la journée. Et là, je ne vous parle que d'un mail sur l'échelle de la planète. Ça commence à faire pas mal quand on sait qu'en moyenne, 10 milliards de courriers électroniques sont échangés chaque heure. L'empreinte environnementale laissée par nos usages numériques est immense et la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience du fait de l'immatérialité d'Internet. Pourtant, tout cela ne fonctionne pas par magie. Il nous faut des câbles pour relier tout ça, des installations et surtout des data centers, ces entrepôts immenses qui, en quelque sorte, stockent l'Internet mondial. Mes chers collègues de Spam, j'aurais souhaité avoir votre avis sur la question de l'immatérialité d'Internet. Le numérique ancré dans nos usages, est ancré dans nos usages, que ce soit pour travailler ou se divertir. Comment on sensibilise les internautes à ces questions environnementales en ligne ? Et avant de préparer l'émission, aviez-vous conscience de l'impact numérique sur l'environnement ? Théo ?
J'avoue que, en fait, pendant la chronique là, de Florian avec Pulsaria, je me disais, oui, bon, c'est vrai que les mails, ok, on peut réduire, par exemple, le nombre de mails qu'on envoie, ce genre de choses, mais je me disais, bon, c'est pas si important que ça. Mais en fait, le fait que tu ramènes ça à une image de, en gros, un mail, c'est un arbre qui travaille toute la journée en consommation de CO2, ouais. C'est vrai que ça remet assez vite en perspective.
Oui, Lucas.
Après, ce qu'il faudrait essayer de trouver, c'est comparer combien est-ce que c'est de CO2, par exemple, d'envoyer un courrier et combien est-ce que c'est de CO2 d'envoyer un mail. Combien est-ce que c'est de CO2 de produire, par exemple, un CD et combien est-ce que c'est de CO2 de le regarder en streaming. Là, à la limite, il y aurait une comparaison, mais même ce truc-là ne serait pas forcément objectif parce que avec la numérisation, avec la dématérialisation, il y a derrière une grande démocratisation. C'est-à-dire qu'on envoie aujourd'hui bien plus de mails qu'on envoyait avant de courrier. Simplement parce que c'est beaucoup plus facile, parce que c'est beaucoup plus immédiat et parce que voilà, tout le monde le fait, tout le monde envoie des mails, même si c'est pas forcément nécessaire, tout le monde met 800 personnes en copie parce qu'il se rend pas compte qu'à chaque fois c'est un arbre qui va bosser, bah voilà, c'est ce genre de petits trucs qui comptent à la fin.
Et puis donc ça en plus c'est pour les mails qui sont utiles ou à peu près utiles, mais tout ce qui est les spams, les pubs qu'on reçoit et que personne ne lit concrètement, c'est vrai que je pense le bilan carbone doit être assez important. Et
là, on parle que de l'envoi, on peut parler aussi du stockage de ces mails. Alors, il existe des petites applications pour essayer de lutter un peu contre ça. On peut parler de CleanFox, qui est en fait un site qui vous permet de synchroniser votre adresse mail. Et en fait, vous désabonne des newsletters que vous ne voulez pas. Donc, je vous conseille CleanFox, incroyable. C'est magique. Denis ?
Moi, je trouve qu'il y a toujours un aspect flippant à vouloir faire un gros ménage de ces mails parce qu'on, en tout cas, pour ma part, je me dis toujours, je vais forcément supprimer un truc que j'aurais absolument pas dû supprimer. Tu vois, un truc hyper important avec des données de connexion et qui va te mettre dans le caca. donc derrière, c'est j'ai très envie de faire confiance à une petite appli comme CleanFox, mais bon, on a toujours peur de l'irréversible.
Yeah.
Ce qu'il faudrait, c'est comme tout le monde aujourd'hui a une petite étiquette pas de pub sur sa boîte aux lettres, réussir à avoir la même chose sur sa boîte mail, ce serait quand même une avancée assez formidable.
Surtout que la plupart du temps, on reçoit des newsletters, on ne sait pas d'où elles viennent.
Oui, clairement.
Qui m'a inscrit sur ces newsletters?
Théo ?
Oui, c'est intéressant ce que tu disais, Denis, parce que c'est vrai que moi, si je regarde ma boîte mail, je fais le tri assez souvent, mais il y a quand même, je sais pas, il y a une bonne trentaine, quarantaine de mails que je garde un peu par sentimentalisme. Ils ont 3-4 ans, c'est des, des trucs, ça m'a servi genre 5 jours, mais concrètement, je m'en sers plus. Mais genre, je pense, avant que je les efface pour de vrai, ça met du temps, quoi.
Et donc ça, c'est que l'impact des mails, mais on peut aussi parler, donc revenir sur les data centers. Donc 25%, ça représente 25% de l'empreinte environnementale du web. C'est à peu près, c'est les chiffres que j'ai. Donc ces entrepôts, hein, comme je disais, où est stocké l'internet mondial. Et en fait, ce qui frappe le plus, c'est le refroidissement de ces équipements, parce que c'est des équipements qui consomment énormément, donc qui réchauffent énormément l'atmosphère, et il faut les refroidir. En France, il faut savoir que 10% de l'électricité du pays donc servent à alimenter et à refroidir les data centers. Lucas, tu voulais réagir ?
Bah oui, et ça c'est encore, il n'y a pas dedans la pollution matérielle que ça va engendrer à terme, parce qu'à un moment ces data centers, il faut imaginer qu'un data center c'est quoi ? C'est une espèce de grand entrepôt dans lequel il y a donc des serveurs, c'est-à-dire de la mémoire et en gros des espèces de mini PC, enfin de PC avec des composants en moins. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de choses comme ça, mais enfin il y a quand même des processeurs et de la mémoire. Et quand ce matériel là va tomber en panne, et qu'il va falloir tout changer, ça va engendrer une espèce de pollution en termes de déchets qui va être complètement monumental. Et ça, là on parle juste de consommation électrique, déjà c'est dantesque, mais on n'anticipe pas encore ce que ça va être en termes juste de déchets à traiter, d'autant que ces matériels là c'est des choses qui sont quasiment impossibles à recycler, parce que voilà, c'est des matériaux qui sont très composites, dans lesquels il y a énormément de métaux lourds qui sont presque irrécupérables, enfin ça va être un bazar monstre. Donc ça, je sais pas comment est-ce que la société va réussir à gérer ça, quand ça va se faire.
Théo ? Et aussi, ça consomme de l'électricité, ça a besoin d'être recyclé, mais ça aussi, ça consomme de l'eau aussi pour être refroidi, parce que c'est avec des circuits d'eau en fait qu'on gère la température. Et j'avais trouvé une étude qui a été publiée par Green IT. C'est un blog consortium de passionnés du numérique qui fait des articles sur les bonnes pratiques, sur l'environnement en fait numérique. Et il disait que ça représentait la consommation d'eau du numérique mondial représentait 242 milliards de packs d'eau minérale de 9 litres. Donc ça fait quand même pas mal d'eau qui est allouée à juste refroidir des PC,
Faut savoir que certains centres essayent de trouver ce que je considère en tout cas des pseudo-solutions. C'est-à-dire qu'il y a, je crois que c'est dans le nord de la France, j'ai plus la source exacte, mais il faut savoir qu'une piscine municipale se chauffe au data center. La piscine est en fait. Voilà. Denis, tu voulais dire quelque chose ?
Ouais, ils nous ont piqué l'idée avec la patinoire pour ça. Non, je voulais dire effectivement, à une échelle plus personnelle, il faut bien se souvenir que la production d'un PC, que ce soit une tour, un PC portable, ça coûte environ 10 000 litres d'eau, ce qui est énorme. C'est dantesque. Et puis il y a peut-être un rapport à faire aussi entre notre consommation journalière. Tu vois, je me disais tiens, c'est vrai qu'un PC ça coûte 10 000 litres d'eau à produire, et puis quand tu repenses aussi à la consommation alimentaire qu'on peut avoir, il y a certains produits, notamment la viande, qui coûtent énormément d'eau. Donc au final, on a souvent ce même rapport entre ce que ça coûte en transport, et donc ça émet du CO2, ce que ça coûte en eau, parce que c'est une ressource qui revient régulièrement. Je pense qu'il y a effectivement des parallèles à faire, comme tu disais Lucas précédemment, sur les différents plans, les différentes dimensions de notre consommation quotidienne.
Alors, c'est justement un aspect que je vais développer dans ma chronique, mais justement un des aspects on est en plein sell-out, un des aspects du numérique, c'est d'être immatériel, c'est-à-dire qu'en fait on ne se rend pas compte des choses, tout est caché, tout est dissimulé derrière de la technique, et à la fin en fait voilà, on se rend pas compte de ce qui est réellement en jeu dans cette histoire. On se rend pas compte des serveurs, on se rend pas compte de l'électricité qui est consommée en permanence.
Je reviens pour le coup, sur la matérialité, tu disais tout à l'heure que oui, les matériaux sont très peu recyclables. Il faut savoir que en moyenne, on récupère que 5% des matériaux sur un appareil numérique. Tout à l'heure, Florian a parlé du Fairphone, donc qui pour le coup est un smartphone fait en matériaux recyclés et qui a une conception modulaire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez changer toutes les pièces, vous pouvez récupérer pièce par pièce. Et en fait, aucune pièce n'est fixée. Vous pouvez modifier, enfin, si vous voulez juste changer l'appareil photo, vous pouvez, voilà, il est conçu pour être, Il est oui, aussi, il est conçu, enfin, il vient du commerce équitable et c'est la meilleure alternative aujourd'hui. C'est la meilleure alternative à notre smartphone bien polluant, qui malheureusement est un peu moins efficace en termes de performance. Sinon, on peut retourner sur les géants du net aussi. Alors, il faut savoir que Greenpeace a fait un petit rapport pour noter un petit peu les géants du net, et on a des surprises, figurez-vous. On a Facebook qui est plutôt bien noté, hein, qui donc c'est qui a un A par exemple, un joli A.
Ouais, la chance.
Apple aussi est très bien noté. On a des mauvais élèves, hein, on a Twitter qui lui a un F. On a évidemment Netflix qui pour le coup c'est avec sa bande passante, mais je crois que Lucas tu nous en diras plus.
Ouais, ouais,
ok, on parle pas de Netflix. mais aussi Spotify évidemment. On a de nombreux services, de nombreux services. Est-ce que c'est géants du net devraient... On parle beaucoup en fait de leur impact économique. Est-ce que même leur impact écologique devrait être régulé? Qu'en pensez-vous?
Bah, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup de taxer par exemple les grandes industries en fonction de s'ils polluent ou pas. Est-ce que aujourd'hui, Facebook, Twitter, tous ces géants-là, ils sont pas considérés comme étant des grandes industries, tout simplement parce que voilà, on revient toujours sur cette question de la matérialité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme c'est tout propre, qu'ils ont un joli design, ils polluent pas, mais c'est parce qu'on se rend jamais compte de la machinerie complètement colossale qu'il y a derrière ces services. Qui sont voilà et qui finalement voilà vont nuire d'une certaine manière à l'environnement à terme.
Denis.
Oui, moi je veux refaire une incise sur le sujet précédent, c'est que tu parlais d'immatérialité du numérique et ce que ça représente, mais toujours sur la consommation quotidienne et notamment la bidoche, hein, par exemple, c'est pareil, je pense qu'on ne se rend pas compte, il y a une forme d'immatérialité dans les méthodes de production qui fait qu'on ne se rend pas compte de ce que ça nous coûte, et ensuite pour le Fairphone, pour revenir dessus, il y a quand même un truc qui est dommageable avec le Fairphone, c'est qu'aujourd'hui s'il n'arrive pas à percer comme il le devrait, c'est parce que malheureusement en termes de puissance il n'est pas suffisamment concurrentiel. Par contre, ce qui est intéressant, tu dis donc c'est du commerce équitable au niveau de la provenance des pièces, et c'est surtout au niveau des minerais rares qui sont extraits pour faire le Fairphone. Ce ne sont que des minerais extraits en zone où il n'y a pas de conflit. Oui. C'est important parce que souvent il faut savoir que voilà, malheureusement les métaux lourds etc. qui sont dans vos smartphones ont souvent voilà beaucoup de sang sur leur petite caboche, voilà.
Lucas.
Il y a aussi un effort qui peut être fait en fait au niveau de la conception logicielle. Pour être écologique, parce que un logiciel, dites-vous qu'un logiciel c'est comme un algorithme. Plus un algorithme va avoir d'étapes, et bah plus il va être compliqué et lourd pour le processeur de le faire fonctionner. Au contraire, un algorithme qui est court, qui est simple et qui est léger, il va être beaucoup plus facile pour un processeur de le faire fonctionner. Donc le processeur, à terme, va utiliser moins d'électricité. Donc il y a aussi tout un effort à faire au niveau de la production logicielle. Alors même si c'est quelque chose qui est très détaché justement du hardware et de la matérialité, ça compte aussi énormément dans la consommation d'énergie de nos machines.
On peut évoquer la notion de sobriété numérique qui était poussée par l'association Green IT et récupérée par l'association Shift Project. Alors la sobriété numérique serait pour eux la solution, évidemment, la solution à notre problème d'écologie numérique, enfin notre problème notre problème écologie numérique, concevoir des services numériques plus sobres et modérer nos usages.
Alors c'est quoi
est-ce que c'est la solution?
Comment est-ce que tu définis vraiment la sobriété numérique? C'est-à-dire, est-ce que je suis sobre numériquement à partir du moment où je vais que deux fois par jour sur Twitter?
Oui, c'est ça.
Est-ce que je suis sobre numériquement à partir du moment où j'envoie pas plus de 5 mails par jour? Enfin, ça veut tout et rien dire, sobriété numérique. C'est quand même très flou comme conseil, non? Je sais pas.
Théo, je suppose que c'est un peu essayer de modérer, comme on peut essayer de manger par exemple moins de viande pour parce que ça consomme beaucoup beaucoup d'eau à produire. Ben on consomme moins de tweets parce que ça consomme beaucoup d'eau et de CO2.
Oui, Denis.
Oui, c'est ça, c'est une forme d'autodiscipline en fait. Hein. Ouais. Après, c'est vraiment ce mot, la sobriété numérique, j'ai l'impression que malheureusement, il peut s'appliquer qu'aux petits consommateurs que nous sommes. Quoi. C'est difficile de parler de sobriété numérique pour les grosses boîtes qui, de toute façon, trouveront, je pense, toujours un biais, soit pour se dire sobre numérique, enfin assez sobre numériquement. Déjà, il y a cette espèce de petit classement que j'ai pu apercevoir sur ton PC. Je me dis, bah, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui est pris en compte derrière? Quels critères? Alors, du coup, j'irai voir ce petit site-là, mais je pense que c'est pas suffisant, en tout cas pour les grosses boîtes, parce que même si on fait un effort individuel, il faut que les plus gros responsables suivent.
Alors selon le rapport de The Shift Project, qui pousse un peu cette notion de sobriété numérique, il y aurait des régulations, des grosses régulations à apporter, comme l'accès limité au contenu, donc proposition de forfait calculé sur la base de la consommation du volume de vidéos à la demande. Est-ce que c'est pas un petit peu, c'est pas un peu trop demandé à l'utilisateur ? On n'est pas déjà inscrit dans un confort d'usage, Théo ?
Bah, c'est vrai que ça ferait vachement repenser nos usages. Par exemple, je sais pas si vous en tant qu'auditeur, vous avez bien utilisé les SMS avant les forfaits illimités, mais quand le nombre de SMS était limité, chaque SMS comptait, quoi. Alors que là, maintenant, oui. Avec WhatsApp, les trucs. Concrètement, on envoie tout ce qu'on veut, quoi.
Peut-être qu'on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si tout le monde serait prêt à l'accepter, mais un forfait de 2 heures de vidéo à la demande. Mais YouTube, Netflix, Amazon Prime, voilà, vous avez 2 heures dans votre journée.
Alors, juste repenser ça, le faire finalement juste pour Internet, ça n'aurait pas trop de sens. Mais en fait, ce truc-là, ça aurait du sens si jamais on repense en fait la totalité de notre économie et oui. qu'on l'inscrit justement dans l'esprit de se dire que, bah, comme les ressources sont limitées, il faut rationner. Mais aujourd'hui, si on ne fait ça que sur le domaine du numérique, bah, ça n'aura absolument aucun sens. Faut essayer de repenser finalement tout le rôle de la société. Et c'est toujours ce truc-là qui est très compliqué à conjuguer entre, d'un côté, le libéralisme et le fait de voilà de la liberté finalement d'entreprendre et de faire des trucs, et d'un autre côté l'imminence de la fin du monde, donc va falloir
oh, les gros mots
les gros mots, ouais, bah, va falloir réussir à conjuguer les deux. Bonne chance.
Théo, tu voulais réagir à ce que disait
ça dépend si on a un petit peu
on
de
a
temps.
Un petit peu de temps.
Oui, non, je voulais dire que c'était là où, par exemple, un moteur de recherche comme Google avait un peu son jeu à jouer au niveau de l'environnement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est lui qui décide des sites qui apparaissent en premier. Donc, c'est lui qui établit les critères. Et du coup, on pourrait imaginer que la sobriété d'un site, le fait qu'il soit éco-responsable, pourrait être un des critères à mettre en avant dans une recherche et sur les trucs comme ça.
Ouais, ça pourrait être une idée, en effet. Avant de passer à la suite de cette émission sur le vaste thème de l'écologie numérique, une pause s'impose et on va continuer dans une ambiance très French Touch avec le morceau Pleasure du groupe Justice.
Yeah. veux surfer sur Internet, suis-moi, on va t'équiper.
On vient de s'écouter Pleasure du groupe Justice. Vous êtes toujours sur le 95.9 de Pulsar et on vous parle toujours de l'écologie et du numérique. Maintenant, on va passer à la chronique de Lucas, le philosophe de l'émission. Et ce soir, Lucas, tu vas interroger nos habitudes de vie numérique et la dématérialisation des services. Enfin, tu vas... Ouais. Et avec toi, on va voir la dématérialisation des services. Comment la dématérialisation des services fait réapparaître en nous une pensée magique. J'y suis arrivé.
Ouais, t'y es arrivé. Alors ce soir, on discute tous ensemble donc, d'écologie dans le numérique. Et pour cet angle philosophique, j'ai décidé de ne pas traiter l'évidence, c'est-à-dire l'aspect moral du problème. En effet, à propos de n'importe quel sujet qui possède un lien avec l'écologie, il est très facile de tomber dans un moralisme qui se permet d'indiquer à tout le monde comment se comporter sans tenir compte des considérations globales autour de ces enjeux. On l'a expliqué tout au long de cette émission, le numérique, il est à l'origine d'une bonne part des consommations d'énergie de la planète. Cependant, jusqu'à encore très récemment, les services numériques avaient été présenté comme une alternative non polluante à énormément de choses. On a donc ici se posé la question, pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'Internet, ça ne consomme pas d'énergie? D'un côté, c'est vrai, plus besoin d'acheter un DVD. Je peux regarder la totalité du catalogue Netflix, plus besoin d'acheter de CD. Si j'ai un compte Spotify, plus besoin d'envoyer du courrier aux administrations, les mails existent, et ainsi de suite. Seulement, dans tous ces exemples, on fait oublier la matérialité des services auxquels on accède. Et pourtant, ces dispositifs numériques sont aussi source de pollution.
C'est-à-dire que quelque part, on est floué par ces services.
Exactement. Lorsque vous regardez un film sur Netflix, on peut se dire que c'est plus écolo que de prendre sa voiture pour aller acheter un DVD dans une boîte en plastique avant de le mettre dans son lecteur qui possède probablement une date d'obsolescence programmée et qui a été fabriqué de l'autre bout du monde, certes. Mais il est délirant de penser que le bilan carbone de ce film streamé soit nul. Ce n'est pas le cas. C'est seulement que sur Netflix, le film n'a pas de matérialité. On a l'impression qu'il n'existe que comme une image pure qui apparaît sur notre télé et n'est plus vraiment le fruit de la lecture d'une information sur d'un support physique. Le film streamé apparaît comme immatériel parce que son processus de lecture est caché par la technique du streaming. Mais il existe bel et bien. Ses biais physiques sont en revanche différents. Ils sont faits de data centers, de câbles, de fibres optiques et d'ondes Wi-Fi. Mais à l'inverse, de la lecture du DVD, la matérialité n'apparaît pas. Tout se fait comme si le processus de fonctionnement était magique et que le spectateur était victime d'une pensée magique.
Une pensée magique, donc c'est Gandalf ou Harry Potter qui fait fonctionner les sites de streaming, c'est ça?
Tout à fait, non je rigole, pas vraiment. La pensée magique, c'est un type de pensée qui s'attribue l'accomplissement d'un désir sans l'intervention matérielle. Alors souvenez-vous, c'est quand enfant vous tentiez de vous convaincre que vos devoirs allaient se faire tout seuls, ou bien que les cadeaux au pied du sapin avaient bel et bien été apportés par un vieux barbu.
Comment ça?
comment ça? Eh bien ça, c'est la pensée magique, c'est l'explication de phénomènes réels par des causes irrationnelles. Alors selon des anthropologues du début du XXe siècle, ce type de pensée serait un résidu de notre mentalité primitive. Et en fait, ce serait un moyen d'échapper aux angoisses de l'inconnu. C'est l'idée qu'il vaut mieux être dans une erreur plutôt que dans une incertitude. Le numérique, mais aussi la publicité ou la politique dans certaines mesures, récupèrent ce fonctionnement primitif et erroné de l'esprit humain à leur fin. On parlera alors en psychologie de pensée désirée ou de pensée désidérative. Alors dans ce domaine, la pensée désidérative, c'est le fait de se former des croyances et de prendre des décisions selon ce qui est plaisant d'imaginer, mais plus vraiment en faisant appel à sa rationalité.
Bon, d'accord, mais c'est quoi le rapport avec l'écologie, tout ça?
Eh bien, un des effets des services dématérialisés qu'autorise Internet, c'est de faire naître en nous ces pensées désidératives. Je me dis que écouter de la musique sur Spotify du désert, c'est quand même plus écolo que d'aller acheter des CD. Mais c'est uniquement parce que cette pensée est plaisante. C'est un biais de validation de nos actions. Et la mise en place de ce biais est facilitée par l'absence de matérialité des services. Alors que c'est en fait plus ou moins le contraire qui se produit. En effet, la dématérialisation a été la cause d'une large démocratisation de ces services. On n'a jamais reçu et envoyé autant de messages que depuis que les mails existent. On n'a jamais autant écouter de musique depuis que le streaming est apparu. De fait, en plus de rendre invisible sa nocivité pour l'environnement, la dématérialisation des services a fait que tout le monde a maintenant accès à ces services et ces services se rendent de plus en plus indispensables dans la vie de tous et nous rendent de fait de plus en plus dépendants de l'énergie qu'elles consomment. Alors je peux vite fait prendre un exemple, mais par exemple dans beaucoup d'administrations aujourd'hui, il n'est plus possible d'envoyer des courriers. d'envoyer des pièces qui n'ont pas été numérisées. Est-ce que ça, quelque part, c'est pas un aveu de l'absolue dépendance énergétique dans laquelle se met la société?
L'absolue dépendance énergétique, carrément. Ok, d'accord. Théo?
Mais du coup, un moyen de dépasser la pensée magique, c'est ça ?
Ouais.
Ce serait pas de rendre ça matériel pour l'utilisateur, avec par exemple à la fin de la journée, bah, il a sur son PC ou sur son outil en mode ah ben bah, aujourd'hui t'as coûté tout ça.
Si, c'est exactement ça, c'est de se dire bah aujourd'hui c'est comme si t'avais allumé ton chauffage pendant tant de jours, enfin pendant tant de jours à telle température. Mmh. Ce serait se dire c'est comme si aujourd'hui t'avais fait bouillir de l'eau pendant tant de temps. Il faudrait utiliser voilà, enfin faudrait trouver le moyen de transférer ces informations qui paraissent enfin cette consommation d'informations qui paraît tout à fait indolore et la transformer en fait en quelque chose de tangible pour l'esprit humain.
Surtout que plus nos usages évoluent, plus ça consomme. Il faut savoir que Netflix par exemple c'est 13% de la bande passante mondiale.
Oui.
Donc c'est des chiffres hallucinants. Denis ?
Non, je me dis surtout est-ce que ça là, ce petit bilan de fin de journée, ça convaincrait un écolo-sceptique, enfin, tu vois, quelqu'un qui ne croit pas au réchauffement climatique, par exemple, un climato-sceptique, merci, je viens de retrouver le mot. Tu vois, est-ce que ça suffirait selon toi ?
Bah, non, parce qu'un climato-sceptique, il va te dire l'activité humaine n'a pas de rapport sur le réchauffement climatique. Je pense que le niveau du scepticisme, il ne se situe pas au même endroit. Il va pas dire c'est pas que ces trucs consomment pas, il va plutôt dire bah, je crois que ces trucs qu'ils consomment ça change rien sur le dessin de la planète. C'est un autre débat, je pense.
Donc il faudra peut-être un outil supplémentaire tu vois, oui. Aussi pour faire comprendre que ça a un impact.
Ah oui, bien sûr, mais quantifier. Ça c'est plus une question ouais, de société beaucoup plus globale que juste sur la question numérique. Évidemment que ce genre d'outils qui permettrait de rendre tangible notre consommation via le numérique, ça s'adresse bah, aux gens qui croient que la consommation d'énergie à terme peut endommager la planète, j'imagine.
Qu'en est-il de l'écologie dans le jeu vidéo ? Pour en parler, nous avons l'expert de la bande, Denis. Et aujourd'hui, Denis, tu vas nous aider à faire le lien entre écologie et jeux vidéo, comme je le disais.
Ouais, non, j'ai pas envie, là.
Bah, c'est pas ce qu'on avait convenu, t'as rien préparé.
Non, c'est pas ça, c'est que ça me déprime, en fait.
Non, mais bois pas du noir comme ça. Allez, ressaisis-toi, pose ce verre de whisky, ce cigare bas de gamme et ouvre-toi à nous.
Bah, tu vois, dans mon train de vie, je me suis toujours soucié de l'aspect écologique des choses du quotidien. Je viens de la campagne, donc manger local, c'est mon dada. Je fais tous mes déplacements en vélo, à pied, voire parfois en bus. Je prends des douches très courtes.
C'était ça l'odeur depuis le début de l'émission.
Oh, déconne pas, Alex. Je suis meurtri, là. Je suis abattu parce qu'il y a quelques temps, lors de l'écriture de ma première chronique sur le lien entre les GAFAM et le jeu vidéo, j'ai commencé à me rendre compte de l'impact d'un de mes loisirs préférés sur l'environnement et notre belle planète.
Oui, on s'en souvient, les GAFAM, en plus de peser dans le milieu du jeu vidéo, tendent à développer des évolutions technologiques qui polluent énormément, comme le cloud gaming, c'était ça ?
Punaise, on dirait que j'ai écrit tes lignes, je trouve ça dingue.
Mais du coup, t'as creusé un peu pour la chronique d'aujourd'hui ?
Ouais, j'ai chargé mon 6 coups juste après. Roulette russe pour ce soir, tout le monde gagnera.
C'est horrible ce que tu dis là, tes découvertes sont déprimantes à ce point ?
Bon, si t'insistes, je vais t'expliquer brièvement pourquoi le jeu vidéo a un impact écologique important. En plus, un phénomène récent qui a lieu chaque année vient peser dans la balance. Le Black Friday, ça te dit quelque chose ?
Ouais.
Ouais, bah chaque période de Black Friday, par exemple, tous les loulous qui viennent faire leur marché sur Steam ou d'autres plateformes se mettent à télécharger comme des bourrins, ce qui crée une backlog, une accumulation énorme de données téléchargées, alors que dans les faits, on sait très bien qu'on va pas toucher à la moitié de nos achats. D'ailleurs, les stats de Steam prouvent je vais y arriver, je suis déprimé, tu comprends. Puisqu'en 2014, la revue en ligne Ars Technica a mené l'enquête et a estimé que 37% des 781 millions de jeux achetés à l'époque n'étaient jamais lancés. Pour autant, une bonne partie d'entre eux sont téléchargés. Et ça, c'était en 2014, donc imagine le décalage entre il y a 5 ans et aujourd'hui. Côté console, il y a un phénomène semblable qui existe, c'est tout simplement le fait de laisser sa console en veille pour effectuer des mises à jour de jeux et systèmes qui sont monstrueuses. Et pour revenir sur le streaming, un petit chiffre pour vous faire flipper, une série sur une plateforme de streaming demande 3 à 8 mégabits seconde, alors qu'un jeu en requiert au moins 15.
Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher le problème de s'aggraver ?
Ah, mais t'es bien optimiste, mon petit gars, mais t'as raison, faut pas se laisser abattre. Mais à l'échelle des grandes entreprises, une décision a été prise par une vingtaine de grosses boîtes, telles que Google, Ubisoft, Electronic Arts, dans le cadre de l'initiative Playing for the Planet, fin septembre 2019. L'idée est de produire un jeu vidéo, avec des grandes lettres, hein, jeu vidéo, au sens long du terme, plus écologique, en alimentant par exemple les centres de données, data centers, en énergie 100% renouvelable, comme prétend le faire Google. Je dis prétendre parce qu'à terme, aucune garantie n'est donnée de l'engagement de ces géants. Greenwashing ou pas, l'avenir nous le dira. Gardez bien en tête que le monde numérique, c'est 4% de la production mondiale de gaz à effet de serre, soit plus que le trafic aérien civil qui représente 600 millions de tonnes d'équivalent de CO2.
Et à l'échelle des joueurs, on peut imaginer que plus de streaming, ça veut pourtant dire moins de consoles, de boîtiers. Donc moins de plastique, moins de pollution.
Ouais, faut aussi garder en tête que le monde des consoles ne représente que 37 millions de tonnes d'équivalent de CO2. Une catastrophe, oui, mais en demi-teinte, car à terme, elle coûte moins cher que le phénomène de tout streamer. Le plus inquiétant, côté matériel et matériaux, sont les smartphones. 60% des joueurs ont et jouent sur un smartphone. Un smartphone coûte 400 fois plus de ressources à produire qu'à utiliser sur le long terme. Vous me suivez ? Et au rythme avec lequel on change de smartphone, ça devient vraiment alarmant.
Et avec ça, t'en conclus quoi ?
Bah, c'est que le début, que les efforts doivent se poursuivre, tant à l'échelle individuelle que les grands de l'industrie. J'ai envie de croire que l'on puisse continuer à jouer avec un moindre coût énergétique, parce que j'ai aussi envie de continuer à jouer. J'ai envie de croire qu'il n'est pas trop tard pour faire marche arrière sur le streaming à tout va, tout en réduisant l'impact de la production des consoles. Qu'un système de console upgradable, par exemple, en matériaux innovants et peu coûteux énergétiquement, est possible. Mais l'industrie, aussi influente soit-elle, peut être orientée par les consommateurs. Du moins, j'ai envie de le croire, ça aussi. Donc lâchez le jeu sur smartphone, j'en ai marre de me dire que Candy Crush pollue à la fois le paysage visuel et écologique.
Merci Denis pour ta chronique. Théo ?
Oui, du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur le Playing for the Planet. Google en faisait partie, c'est ça, en 2018 ?
Oui, il me semble.
Parce que j'ai vu
2019,
qu'ils avaient lancé leur plateforme Google Stadia, qui est un service de cloud gaming. Donc, c'est-à-dire,
on en reparle.
Est-ce que toi, tu trouves ça cohérent avec ce
Mais pas du tout. C'est pas cohérent. Ça va inciter à... Après, voilà, dans les faits, ce machin a été lancé. Ça fonctionne plutôt bien. C'était censé aussi être écologique parce que pas de mise à jour. Tu vois, sauf qu'il se trouve que là, récemment, un de ces gros jeux de NBA s'est mis à faire des mises à jour. Sauf que t'as pas de boîtier derrière. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. C'est très, très bizarre. On peut imaginer que ça va consommer à fond, quoi.
Lucas.
Alors, je sais pas si d'ailleurs vous avez remarqué ça en tant que joueur de jeux vidéo plus ou moins régulier autour de la table, mais à l'intérieur même des jeux vidéo, dans leurs propos, il y a de plus en plus une fibre écologiste.
Oui.
Alors, je pense par exemple au dernier Civilization, dans lequel il y a maintenant une variable d'environnement qui est faite. Je pense aussi par exemple au jeu, alors c'est pas vraiment. Je pense que c'est un jeu qui parle de ça, mais j'en sais rien. Est-ce que vous avez entendu parler de Satisfactory ?
Absolument pas.
Non.
Alors, c'est une espèce de jeu où on arrive sur un monde, une espèce de terre vierge, inhabitée, formidable, un royaume de paix et de nature, et on vient construire des usines là-bas. On vient dégueulasser une planète, on vient piller les ressources, mettre des usines, des bons tapis roulants qui roulent bien, c'est bien. Et à la fin, la planète, elle est dégueulasse, mais c'est un super jeu aussi. Si un jour vous voulez devenir un méchant promoteur immobilier, constructeur d'usine, ce jeu vous le permet.
Denis, pour finir.
Ouais, pour finir, effectivement, j'ai pas beaucoup parlé des jeux vidéo qui parlent d'écologie, mais il y en a un paquet. Ouais. Et pour parler des plus gros d'entre eux, même le dernier Red Dead fait un petit point sur l'écologie, puisque quand on en arrive dans la ville de Saint-Denis, je suis triste qu'elle porte mon nom, c'est plutôt l'inverse, on voit ces grandes cheminées fumantes qui font peur et qui menacent, qui pèsent sur le personnage et sur ses habitants. Donc, non, allez-y, il y a un paquet de jeux autour de l'écologie, c'est très intéressant.
L'heure tourne et on arrive déjà à la fin de l'émission, mais avant de se quitter, on va passer aux événements numériques de la semaine à venir. Le 10 décembre, vous pourrez assister à la remise des prix du concours Akaviz au tiers-lieu numérique Cobalt. Pour rappel, ce concours proposait aux participants de représenter graphiquement des données ouvertes en open data et c'est organisé par Grand Poitiers. Toujours le 10 décembre, le SPN, le réseau des professionnels du numérique, vous invite à Angoulême pour participer au Créaton, un challenge de 8 heures qui regroupe des équipes interdisciplinaires qui travaillent sur des projets innovants, alliant créativité, design et numérique. Le thème de cette année, c'est repenser l'expérience de visite pour les salles de musiques actuelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur spn.asso.fr. Enfin, si les questions d'environnement et d'environnement numérique et d'énergie vous passionnent, Cobalt organise ce 18 décembre un meet-up tech intitulé Blockchain et énergie, quel potentiel pour la transition énergétique et les startups. C'est à partir de 18h30 et c'est sur inscription. En attendant la dernière émission de l'année, on vous rappelle que celle-ci et les précédentes sont disponibles en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et les autres. Il est maintenant temps pour nous de laisser l'antenne à Glitch, mais avant ça, on finit avec le morceau I'm in the mood de Mehdi. Salut !
Salut.
spin it. La, 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 la. All you need is a sunset drive, glass of wine and a 45. La, 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 la. All you need is a sunset drive, glass of wine and a 45. Now, come on.
That we heard it all before. Please let me rewrite the score and take this home. Take it home once more. 'Cause I've been around for no long not to know. Let's put the needle in the groove. 'Cause I'm in the mood.
Sunset drive, glass of wine and a 45.
La, come on. La, 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 la.
All you need is a sunset drive, glass of wine and a 45.
Jake.
I've been around for far too long, but all I need is to bring it on home to you.
To you.
Come on. Let's try to be satisfied. Throw away all them tears we cried. Yeah, might be muddy, let that shit dry. Been cut down before, but we still gon' try. We still gon' try.
Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Ils n'ont vraiment rien à voir.